Il me paraît inconcevable que l'on puisse prétendre que la radiodiffusion française n'est pas une radiodiffusion démocratique.
Le témoin de ce vendredi, Jean-François Pérouse, le stambouliote malgré tout.
Constantinople, qu'on nomme aujourd'hui Istanbul, n'est plus la capitale de la Turquie. Elle prend rang derrière Ankara. Mais elle garde toujours sur sa rivale, avec ses dômes et ses minarets, avec la masse énorme de Sainte-Sophie et le grouillement des quais de Galata, cette revanche de rester sous ses fards de vieille courtisane, la plus fabuleuse et la plus poignante.
Dans le récit historique façon Kemal Atatürk, ici retranscrit par la Radio Nationale Française Démocratique, Ankara était la ville héroïque qui illustrait en couleurs le réveil national. Et Istanbul, une cité peut-être enchanteresse, mais qui semblait vouée au noir et blanc, voire au délabrement. Cependant, la force d'Istanbul ne peut être jugulée. Elle est, de par sa situation et son histoire, ouverte aux horizons extranationaux. À Ankara, une diplomatie de capitale. À Istanbul, une diplomatie de métropole. Istanbul est maintenant entrée dans le top 20 des plus grandes villes du monde. Sa population, qu'on peut estimer à 14 millions d'habitants, a doublé depuis un quart de siècle et l'espace qu'elle occupe croît encore plus vite que le nombre de ses habitants. La ville est au cœur de la politique d'Erdogan qui en a été le maire. Il y multiplie les grandes infrastructures qui font chacune l'objet de plusieurs inaugurations à grands sons de trompe à mesure qu'elles avancent. Dorénavant, 95% des constructions ont moins de 25 ans. Mais il arrive qu'on voit des panneaux ainsi libellés. Ici, on construit un bâtiment historique. L'objectif de la politique immobilière, de l'ingénierie sociale du parti AKP au pouvoir est en effet, grâce à Istanbul, de remettre la Turquie dans le cours d'une histoire ottomano-musulmane qui n'aurait pas dû être interrompue.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-François Pérouse, bonjour.
Bonjour.
À Istanbul, vous dirigez l'Institut français d'études anatoliennes qui a créé un observatoire du fait urbain. Vous êtes géographe d'origine. Alors, dans l'ordre républicain, vous êtes installé d'abord dans la capitale, à Ankara. Ça a été l'étape formatrice.
Exactement. Voilà, je me suis trempé dans cette ambiance républicaine au milieu de la steppe. Une manière d'entrer dans l'ordre républicain, et c'était un moment important dans ma formation, avant de me perdre dans le milieu émollient d'Istanbul.
Alors chacun a vu l'ironie de vos propos. Istanbul, c'est depuis quelle année ?
Je suis arrivé juste après le tremblement de terre d'août 1999.
Ah oui, il va falloir que vous vous habituiez à dire « je ».
Oui, je vais me faire violence.
Vous dites, moi j'étudie la ville à partir du détail et à partir de la périphérie. Le fait urbain contemporain se construit à partir des périphéries.
En effet, il me semble que c'est un point de vue qui permet d'entrer dans les dynamiques contemporaines et de vraiment saisir ce qui fait la ville. Donc il faut se décentrer pour désorientaliser Istanbul et entrer dans la banalité confondante de ces périphéries infinies qui se recomposent perpétuellement et qui s'étendent.
Alors, c'est le parti pris de votre livre que vous publiez aux éditions de La Découverte sous le titre « Istanbul, ville, planète ». Vous parliez avec le chauffeur de taxi qui vous menait à l'aéroport d'Istanbul. Il y a combien d'aéroports ? Deux, bientôt trois ?
Voilà, le grand aéroport international qui pourra accueillir, dit-on, 150 millions de voyageurs par an, prévu pour 2019. Pour l'instant, on a deux grands aéroports internationaux.
Alors, l'avion qui allait vous mener à Paris, il a fallu d'abord que vous entendiez tout un sermon de votre chauffeur de taxi qui disait que c'était extraordinaire, les nouveaux équipements. Mais enfin, en même temps, vous, vous dites que le périphérique est saturé peu de temps après sa construction.
Oui, on a ce que les économistes des transports appellent l'effet trappe, c'est-à-dire que chaque nouvelle infrastructure routière et autoroutière, en fait, loin de résoudre la question de l'engorgement, attire de nouveaux consommateurs, attire de nouveaux trafics. Et l'engorgement se poursuit malgré cette politique très ambitieuse d'ouverture, de tunnels, de ponts. des infrastructures de transport qui, quand même, font l'admiration encore hein, de la population. C'était le cas de ce chauffeur de taxi ce matin.
Vous lui avez dit, moi, il m'arrive d'aller au cimetière du vieil homme en larmes. C'est un crève-cœur.
Oui, en effet, c'était un de mes lieux de ressourcement aux marges nord-ouest de la métropole, à proximité de la mer Noire, hein, près d'une ancienne station balnéaire qui s'appelle Kilios, hein, qui est maintenant totalement défigurée par ce qu'on appelle les cités, hein, ces lotissements hein, de standing variables. Et donc, c'était un petit cimetière hein, modeste, avec ce nom enchanteur hein, du vieil homme en larmes. Un cimetière hérissé de cyprès avec de magnifiques chênes où l'on pouvait, hein, l'été notamment, hein, goûter la fraîcheur.
Mais maintenant
Maintenant, c'est l'enfer. Maintenant, ce cimetière est écrasé hein, par une espèce de viaduc hein, qui vient du troisième pont, hein, le pont Yavuz Sultan Selim, inauguré l'été dernier. Et donc, son environnement est totalement défiguré. Et ça n'est plus donc un lieu de recueillement. Hein.
Mais attendez, la nostalgie, c'est un péché pour le géographe Jean-François Pérouse. Continuons notre observation par les marges. Là, on était au nord. Voici un reportage qui date d'une vingtaine d'années, signé FR3, Saga Cité, et qui a été fait à Zeytinburnu, c'est-à-dire un peu à l'ouest
voilà,
du lieu centre.
C'est ce qu'on appelle le péricentre, hein, c'est une des premières périphéries hors les murs. On voit très bien les murailles de Zeytinburnu, et ça a été le lieu où a été forgé hein, le terme de Gecekondu, hein, de ces habitations construites la nuit. Donc c'était un lieu d'immigration hein, et aussi de repeuplement au moment des grandes percées hein, dans les années 50 hein, par Adnan Menderes au cœur de l'écusson historique.
Reportage donc auprès d'anciens habitants qui vont se retirer, enfin, ou qui vont habiter autrement.
Ici, c'était la campagne. On avait reconstitué un village. Il n'y avait pas de rues, ou alors elles étaient pleines de boue. Il n'y avait pas d'eau courante, on avait des puits. Pas d'électricité, tout le monde avait sa lampe à gaz.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la transformation du quartier ?
Maintenant, on vit une époque moderne. Tout le monde doit s'adapter, moi comme les autres. D'ailleurs, je n'ai pas le choix, ma maison est déjà entourée d'immeubles.
Ici, on construit sans s'occuper du reste. Ça fait 10 ans que ça dure, depuis que l'État a voulu gagner le soutien des habitants des bidonvilles, les Gecekondu comme on les appelle ici. Ils sont sortis de l'illégalité pour devenir propriétaires du terrain sur lequel ils avaient construit leur baraque. Résultat, le prix du mètre carré s'est envolé et les habitants des baraques ont cédé leur lopin de terre aux entrepreneurs privés. En échange, ils sont devenus propriétaires d'un ou plusieurs appartements. D'ici un an ou deux, il ne restera plus de baraques à Zeytinburnu.
Et maintenant, 20 ans après ?
20 ans après, Zeytinburnu s'est totalement désindustrialisé. Zeytinburnu se caractérise par des grandes zones de collectifs, hein, parfois très très luxueux, hein, parfois un peu moins. Et Zeytinburnu ne porte la trace hein, de cette histoire migratoire hein, que dans sa toponymie. Et il faut marcher beaucoup, mais c'est une bonne manière hein, d'aborder la mégapole hein, pour retrouver hein, ces lieux. J'ajoute, c'est un lieu donc d'installation notamment de balkanique hein. C'est-à-dire qu'on a dans les années 40, 50, 60 hein, une immigration balkanique qui est fondamentale hein, dans le développement des périphéries d'Istanbul.
Les périphéries sont organisées en nouveaux arrondissements, il y en a 8, dites-vous. Il y a toujours un peu dans chacun de ces nouveaux arrondissements la même ingénierie sociale. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot que vous utilisez souvent dans votre livre Istanbul ville planète?
Effectivement, il ne s'agit pas seulement pour les dirigeants nationaux, parce que Istanbul est géré par le centre, est remodelé par le centre. Hein, le pouvoir local ne fait que relayer hein, les injonctions du centre. Et cette ingénierie sociale, c'est vraiment une volonté de créer un nouveau citoyen, un citoyen plus conservateur, un citoyen gentiment consommateur, un citoyen qui vit en sécurité et on a donc dans ces nouveaux quartiers hein, des périphéries, des monuments, des équipements hein, qui signent bien ce projet hein, d'ingénierie.
Attendez, les monuments, c'est la mosquée, c'est le stade, et puis c'est aussi le centre commercial, expliquez-vous.
Voilà, hein, le nouveau citoyen...
C'est un père de famille avec des cartes de crédit.
Exactement, endetté, comme le sont les Stambouliotes, et qui, effectivement, s'adonne aux rituels de consommation, qui sont des rituels familiaux. Et donc, on a Zeytin Mournou, hein, qui veut dire la pointe hein, de l'olivier. On a un énorme centre commercial qui s'appelle Olivium, hein, qui domine maintenant l'ensemble de l'arrondissement.
Alors, vous pensez bien qu'on a été particulièrement attentif dans la préparation de cette émission à l'effet, pas l'effet Trump, l'effet Trump. Il y a aussi un grand centre commercial Trump qui a été inauguré en présence d'Erdogan, qui à l'époque était seulement Premier ministre, en 2012.
Well, thank you very much, ladies and gentlemen. This has been a labor of love. My daughter loves Turkey.
Vous savez, c'est une histoire d'amour. Ma fille adore la Turquie et elle adore Istanbul. Et elle a vraiment toujours aimé venir ici. Elle est venue plusieurs fois. Vous savez, nous avons une relation ancienne avec la Turquie parce que nous avons fait une émission qui s'appelle The Apprentice. Et c'est toujours une des émissions les plus regardées aux États-Unis. Et je sais que ça a été tourné ici. Mais malheureusement, je n'apparaissais pas dedans, donc ça a fait moins d'audience que d'habitude. C'est pas grave. Nous aimons ce qui s'est passé, ici, autour Trump. Quand nous sommes venus la dernière fois, c'était encore désert. Et maintenant, des centaines et des centaines d'ouvriers sont employés ici. Et maintenant, des milliers et des milliers de personnes viennent ici. Le centre commercial est un des plus beaux que vous pouvez voir au monde. Je voudrais remercier le Premier ministre, car je sais qu'il était là, hier, pour couper le ruban. Et maintenant, il est très occupé avec son travail, ce qui est génial, hein, quand un Premier ministre travaille autant que le vôtre.
Alors, évidemment, on sait que depuis, le président Trump a pris de la hauteur dans la façon dont il parle. Il y a eu un moment de flottement, d'ailleurs, avec Erdogan.
Et il a même dit qu'il regrettait hein, d'avoir participé à cette inauguration. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a donc ces deux tours hein, Trump qui sont au milieu d'un quartier informe hein, et qui dominent des maisonnettes minables. C'est d'une violence symbolique très, très, très forte. Hein. Et... je ne sais pas hein, si ce centre commercial apporte vraiment la prospérité aux ménages environnants.
Mais vous y avez pénétré, vous ?
Non. J'ai beaucoup fréquenté les centres commerciaux, mais il y en a tellement.
Il y a des endroits où il est difficile d'accéder. Ce sont les résidences fermées, sécurisées, qui ne sont pas nécessairement étalées dans l'espace, qui peuvent être en hauteur à Istanbul.
Voilà. Alors, ces résidences fermées se sont multipliées à partir des années 80. D'abord dans les périphéries hein, encore boisées hein, ou à proximité de la mer Noire, à proximité du Bosphore. Hein, et maintenant, elles se généralisent dans l'ensemble hein, de la métropole et c'est une des modalités de la transformation de celle-ci. Donc soit sous la forme verticale, soit sous la forme de complexe de villas. Et c'est toujours disproportionné. Hein, c'est des villas de 400 mètres carrés au minimum. Hein.
Ça veut dire que dans l'esprit de l'ingénierie sociale du parti au pouvoir, l'espace naturel, c'est pas l'espace public.
Non. Non, et même la mission de modeler les espaces publics est ouvertement hein, abandonnée aux développeurs de centres commerciaux ou de résidences privées. Ces résidences privées qui ont des services hein, et des équipements propres, hein, pour la consommation, pour le corps, pour la santé et pour les enfants.
On entendra tout à l'heure les échos d'une manifestation qui a eu beaucoup de retentissement en Europe occidentale à propos de l'espace public que constitue le quartier Taksim, le parc de Gezi. Mais avant... Valérie Aestaray, notre réalisatrice, qui est peut-être un peu radicale, a choisi Gropiorun comme moment musical de l'émission. Vous pouvez nous présenter ce groupe. Ce ne sont pas des gens d'Istanbul à l'origine, c'est plutôt des Anatoliens, non ?
Oui, mais enfin, bon, qui pratiquent hein, à Istanbul. Alors, c'est un groupe qui est très particulier, parce que, bon, qui existe depuis le début des années 90, hein, et qui est un collectif. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de star. Hein, c'est un groupe qui est très lié à l'extrême gauche turque. Hein, et dont les membres sont périodiquement arrêtés et séjournent en prison. Mais comme il n'y a pas de star, il y a un renouvellement permanent. Et donc c'est un des groupes icônes hein, d'une certaine extrême gauche turque.
Oui, mais style folk, rock quand même.
Oui, oui.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
À l'entrée du parc, à ma gauche, il y a le centre culturel d'Atatürk, qui est un peu comme l'opéra d'Istanbul, avec une grande affiche d'Atatürk et un grand drapeau turc. Et là, juste devant moi, il y a des petits-enfants qui vendent des bouteilles d'eau, une petite kiosque avec des simit, qui sont les pains au sésame. Et à ma gauche, le vendeur de pastèques. Il a coupé les pastèques en petits morceaux et il les vend dans des assiettes en plastique. Dans le parc, il y a un vendeur de t-shirts, des t-shirts révolutionnaires, on peut dire. On peut lire déjà Mustafa Kemal Atatürk, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient très très kémalistes, qui participaient aux manifestations. Il y a quelques t-shirts de Che Guevara. Et il y a en fait un mot qui est assez marquant pour les manifestations ici, qui s'appelle Çapulcu. C'est comme ça que le Premier ministre Tayyip Erdoğan, il avait appelé les manifestants. Çapulcu, ça veut dire littéralement en français des pilleurs. Mais les manifestants se sont tout de suite emparés de ce mot pour dire que nous sommes tous des pilleurs. Donc tout le monde se réclamait pilleur.
Les gens se sont mis côte à côte pour une cause et se sont aidés sans penser quoi que ce soit sur les autres, si ce sont des gauchistes, si ce sont des kurdes, des lesbiennes, des gays, enfin, l'identité n'avait aucune importance, tout le monde s'aidait. Et ça, c'était vraiment très très beau à vivre et à voir.
Istanbul, aujourd'hui avec Jean-François Pérouse qui publie Istanbul, ville planète, aux éditions de La Découverte. On a entendu des opposants de différents styles. Grop Yorun, c'est plutôt les maquisards. Hein.
Oui, vous êtes très subversif. Et puis, c'est un appel aux maquis.
Les autres, que le Premier ministre de l'époque, maintenant président de la République, traitait de pilleurs, il y a des t-shirts à l'effigie de Che Guevara, mais c'est quand même plutôt Istanbul cool, quoi. La Movida, on est dans le quartier en 2013, des manifestations contre la reconstruction d'une caserne ottomane. On est dans un quartier à la fois kémaliste et européanisé.
Oui, c'est le cœur vibrant de l'Istanbul international, touristique, de l'Istanbul étudiant aussi, avec un certain nombre de landmarks comme le centre culturel Atatürk, qui est un bâtiment qui a été fermé. Évidemment, là, cette fermeture a été vécue comme une agression par ceux qui estiment que c'est un lieu important et qu'il faut continuer à faire vivre.
Oui, mais ces positions que vous venez de nous décrire sont quand même minoritaires, d'autant que Erdoğan, après ces manifestations, a lancé un discours peut-être mobilisateur de reconquête d'Istanbul. Ça veut dire quoi, reconquête d'Istanbul? Ça veut dire reconquête d'une identité historique.
Oui, et de reconquête par des populations dont il estime qu'elles sont les les propriétaires légitimes d'Istanbul, par cette majorité silencieuse, modeste, dont ils pensent être le représentant. Hein, ils jouent toujours cette opposition hein, entre une élite internationalisée, hein, qui s'agite sur les réseaux sociaux ou qui était sur la place Taksim, hein, et la Turquie profonde, hein, dont ils seraient le porte-parole.
Et qui est censé se retrouver à la fois dans les spectacles avec feux d'artifice, rayons laser, qui célèbrent la reconquête de 1453, Mehmet II, vainqueur du dernier empereur de Constantinople, ou bien dans ce film, à grand spectacle, dont voici un extrait, un film de Faruk Aksoy, le discours du sultan à la veille de l'assaut final aurait été celui-ci.
Je sais que nous sommes capables de franchir ces murailles grâce à notre bravoure. Alors demain, nous ouvrirons les yeux, non pas sur un spectacle de désolation, mais sur un jour béni des dieux qu'aucun fidèle n'aura vu jusqu'ici. Nous ne goûterons pas aux douleurs de devenir martyrs tant que nous n'aurons pas obligé nos ennemis à se prosterner devant nous. Allah Akbar.
Dans le discours de reconquête, la référence à 1453, omniprésente.
Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, quand Recep Tayyip Erdogan a remporté les élections donc en mars 1994, il a commencé à réactiver ce discours de la conquête et de la reconquête. Et il l'a ensuite réactivé après Gezi. Et il a à nouveau réactivé après le coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Et il est fasciné par ce moment. Et donc, c'est une référence permanente. Justement, les grandes infrastructures portent des noms qui sont aussi en rapport avec le conquérant. Et donc, c'est martelé. Et ça, c'est censé un petit peu fonder la fierté du peuple turc qui se réapproprie son histoire et qui va de l'avant.
Je suis un consommateur avec mes cartes de crédit et mes dettes. Je vais acheter un appartement dans la résidence 1453 et je vais emmener ma petite famille, parce qu'on sort toujours en famille, au panorama 1453. Qu'est-ce que c'est ça, le panorama 1453 ?
Alors, c'est censé être un musée qui relate ce moment de la conquête, qui est exalté et qui est décrit d'une manière extrêmement simpliste, comme un grand choc des civilisations, où la civilisation supérieure et celle qui a la plus grande vitalité prend le dessus sur la civilisation dégénérée et au mépris des vérités historiques. Il y avait plus de Grecs dans l'armée ottomane qu'il n'y en avait dans l'armée grecque. Il y avait des mercenaires.
Nous sommes maintenant au temps de l'hyperbole véridique, formule de Donald Trump.
L'histoire est réécrite, là. Ouais. Elle est réécrite dans ce musée de 1453, qui fait beaucoup de mal, à mon avis, puisque toutes les classes d'Istanbul y défilent. Et d'ailleurs, y défilent. Et c'est, dans l'assainement beaucoup plus que dans l'approche historique.
On parlait tout à l'heure de Zeytin Burnu, ce quartier neuf. Il y a là-bas un complexe ottoman que vous décrivez, avec une mosquée et un mausolée qui datent du XVIe siècle, mais alentour ?
Alors, alentour, ont été construits.
De l'ancien, ex nihilo, des bâtiments anciens
voilà, ont été construits. Des bâtiments anciens, à la place d'entrepôts, à la place d'ateliers. Moi, j'ai bien connu ce vieux centre qui s'appelle Merkez Efendi, avant sa métamorphose. Et c'est inouï, la manière dont, finalement, les gens adhèrent et viennent consommer de l'histoire ottomane.
Mais c'est formidable quand même, vous dites, on peut trouver un festival de médecine alternative, un marché bio, religieux, bien sûr, tout ça dans du bâtiment ancien neuf.
Voilà, exactement. Et on est dans l'hybridation, mais quand même le moteur économique est fondamental, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas seulement dans la pure idéologie. Et ce sont de nouvelles pratiques qui se bricolent, qui empruntent aussi à des modes de consommation, d'autres sphères.
Vous décrivez dans Istanbul, ville planète, un déplacement du centre de gravité historique, 1453 plutôt que 1923, la fondation de la République ou d'autres dates. Et puis, un déplacement du centre de gravité géographique, parce qu'il faut bien comprendre que la transformation d'Istanbul, elle tient aussi à la fin du rideau de fer, à l'ouverture d'un nouvel espace, l'espace ex-soviétique. Et il y a aussi des liens de plus en plus forts entre Istanbul, l'Iran, la péninsule arabique. On voit ça quand on observe le fonctionnement de Turkish Airlines. Et puis aussi dans beaucoup de domaines, dans l'université, oui, dans la médecine, et évidemment
les
dans le tourisme.
Les clients de la médecine médicale, hein, par exemple, sont maintenant beaucoup des clients qui viennent du Golfe. Hein. Et ça, j'ai des chiffres très récents pour l'année 2016. Hein, les principaux acheteurs, hein, les trois groupes nationaux, hein, ça c'est quand même un changement stupéfiant, sont 1. les Irakiens, 2. les Saoudiens, 3. les Koweïtiens, acheteurs étrangers à Istanbul de biens immobiliers. Ça, c'est quand même assez inouï. Hein. Donc, exit, hein, les Allemands, les Anglais, hein, qui étaient en bonne position dans les années passées. Hein. Donc, on a eu effectivement, à partir du début des années 90, hein, une réouverture d'Istanbul, hein, au vent balkanique, hein, au vent caucasien, transcaucasien, mais aussi, hein, du Proche et Moyen-Orient.
Et dans les foires, dans les galeries d'art dont vous parlez beaucoup, les clients sont essentiellement de ces espaces-là?
Depuis quelque temps, oui. Oui, oui. Et surtout, il y a une offre, hein, qui vise tout particulièrement ces clients-là. Hein. On vend des calligraphies, on vend des Corans historiques, etc., hein, à destination, hein, de cette clientèle. Des musulmans riches, hein, du monde entier, hein, pas seulement du Golfe, hein, mais ça peut être aussi de l'Indonésie, de la Malaisie. Hein. Il y a vraiment là une réorientation, hein, de l'offre stambouliote, hein, vers cette clientèle.
Et puis, il y a les invisibles.
Oui, tous ceux qui...
Il y a combien de Syriens, mais comment peut-on le savoir, à Istanbul?
On estime qu'ils sont à peu près entre 250 000 et 300 000. Mais ils sont extrêmement diversifiés. On a de grandes différences sociales, hein, c'est-à-dire qu'on a des Syriens qui sont très éduqués, qui sont employés, hein, et qui participent au dynamisme économique d'Istanbul, qui apportent leurs compétences, hein, leur savoir-faire, hein, et jusque au prolétariat des prolétariats, hein, ce sont les Tziganes, hein, du nord d'Alep, qui eux cumulent tous les stigmates, hein, en tant que Tziganes, en tant que Syriens, en passant par les Turkmènes, en passant par les Chrétiens, en passant par les Kurdes. Donc c'est une population, hein, très très diversifiée et qui n'a pas la même visibilité. Hein. Les mendiants que l'on voit, hein, sont plutôt, hein, soit des Kurdes, soit des Tziganes. Hein. Les autres trouvent, hein, dans des réseaux, hein, d'aide, dans tout ce secteur humanitaire qu'a développé, hein, l'AKP à destination, hein, de ses frères, hein, en religion. Les autres, disons, s'en sortent davantage.
Et vous restez à Istanbul néanmoins?
Malgré tout, oui, je reste intrigué, fasciné, et je continue à penser que pour comprendre l'Europe d'aujourd'hui, être à Istanbul, c'est très utile dans cette interface, hein, avec le grand monde, justement. C'est-à-dire qu'à Istanbul, on sent, hein, les tensions qui travaillent notre planète. Et on a donc à la fois cette métropole européenne, hein, mais qui est aussi, hein, affectée, impactée parfois par le monde, hein, et qui ne s'en protège pas de la même manière.
Merci à vous, Jean-François Pérouse. Votre livre « Istanbul, planète » est publié à La Découverte. Et puis je signale aussi le numéro 7 d'Anatolie, qui, en hommage à l'un de vos prédécesseurs à l'Institut français d'études anatoliennes, Stéphane Hierosymos, est consacré à Istanbul, capitale régionale et ville-monde. Et ça, c'est aux éditions du CNRS. L'émission a été préparée par Frédéric Martin. J'ai déjà dit les mérites de Valérie Aesterail. Mais nous saluons aussi à la technique Henri Bérec.